19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah, c'est pas mal, ça l'allait bien. Je vous avoue, pour tout vous dire, c'est parce qu'en face de moi, j'ai l'écran de BFM TV. Et que j'étais en train de regarder ce qui est en train de se passer en direct live, figurez-vous. Voilà, c'est lapsus. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Vous écoutez bien Beurre FM, je vous le précise. Dans les informés, oui, plus que jamais, de 19h à 20h, nous sommes ensemble. Au menu ce soir, ce qui vous attend. La guerre en Ukraine, on continue d'en parler. Comment, évidemment, les Européens tentent de sauver tout cela. Le président Zelensky demande officiellement l'intégration de l'Ukraine à l'Union Européenne. L'Union Européenne qui a réagi aussitôt. On écoutera tout à l'heure ce message fort du président ukrainien. Nous irons aussi, évidemment, nous intéresser avec ce coup de tonnerre à la CGT. Après des accusations de torture, de viol, nous irons comprendre, évidemment, les raisons pour lesquelles ce syndicaliste emblématique se retrouve dans l'embarras. Mélenchon, LFI, tiens, qui en a marre que Mélenchon soit présenté comme l'ami du dictateur. Eh bien, on en parlera tout à l'heure, y compris avec vous, au 01 53 48 3000. Le Quoi de Neuf à 19h30, et puis mon invité, Karim Amlal, à 19h, juste après le menu, pour parler d'une tribune qui commence à buzzer, oui, sur la représentation nationale, sur l'égalité des chances. Eh bien, vous le savez, c'est ici que ça se passe. Et puis, vous aussi, au 01 53 48 3000. Vous nous appelez, d'ailleurs, le standard reste toujours ouvert, plus que jamais, en permanence. Vous nous appelez jusqu'à 20h, mais surtout, vous réagissez, vous le savez l'émission, hein, c'est commenter, décrypter, analyser. Et vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous suivre. Je vous remercie pour votre fidélité. Voilà, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour, justement, c'est parti dans les informés.
Les informés, l'interview.
Allô, Karim Amlal est notre invité. Bonjour Karim Amlal.
Bonjour, comment ça va?
Mais très bien. D'abord, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes l'ambassadeur chargé de la Méditerranée. Vous êtes le fondateur d'un mouvement citoyen qui s'intitule simplement Pluriel. Oui, absolument, Pluriel. Dites-moi, alors je ne m'adresse pas à l'ambassadeur, je m'adresse au fondateur de ce mouvement Pluriel. Pluriel en quelques mots, de quoi s'agit-il Pluriel et qui fait vivre Pluriel?
Alors Pluriel, d'abord merci pour votre invitation, cher Adil. Pluriel, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement de la société civile qui a pour objectif de porter dans le débat public des propositions, des idées sur des sujets qui nous sont chers et qui malheureusement sont trop peu évoqués, trop peu valorisés aujourd'hui. L'égalité des chances, la diversité, la mobilité sociale, l'inclusion, les valeurs de la République. Donc on est à peu près, on est plusieurs centaines, hein, on est aujourd'hui plus de 300, un peu partout en France, mais toute la société civile, donc il y a des entrepreneurs, des entreprises, des cadres, des responsables d'associations, des ouvriers, des étudiants qui nous rejoignent, qui veulent s'engager et qui veulent porter des idées sur ces sujets-là. Voilà.
On aura l'occasion, effectivement, d'en parler ici même, sur ce plateau. Karim Amlal, vous êtes notre invité parce que vous avez rédigé une tribune qui s'intitule « La France doit tenir sa promesse d'égalité pour tous et d'émancipation pour chacun ». Comment a émergé cette idée, justement, concernant cette tribune? Aujourd'hui, l'égalité des chances, est-ce qu'on peut dire qu'elle a plus que jamais sa place ou au contraire elle rencontre quelques difficultés aujourd'hui?
Non, bah, l'égalité des chances, vous savez, pour beaucoup de gens, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On en parle depuis 20 ans, 30 ans même, la discrimination, de la mobilité sociale, de l'accès à l'éducation, et depuis 20 ou 30 ans, pas grand-chose a avancé. Donc il y a eu beaucoup de promesses et finalement peu de résultats. Alors, je ne dis pas qu'on va tout révolutionner et qu'on va tout changer, mais on est dans une période de campagne électorale, d'élection présidentielle. C'est le moment pour porter des propositions, pour porter des idées, et pour faire en sorte que ces idées, ces propositions, elles aient une chance d'être mises en œuvre. Et nous, on considère que c'est à la société civile, c'est à nous tous de nous engager pour porter, à travers nos expériences, à travers nos parcours, des propositions et des idées nouvelles. C'est le but de cette tribune. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres sur plein de thématiques. Mais c'était une première tribune avec des personnalités qui nous soutiennent, des personnalités, des chefs d'entreprise.
Alors je vois, on parle de députés, on voit d'entrepreneurs, de militants associatifs, des acteurs de la vie, de la société civile. Justement, Pluriel se veut, qu'est-ce qu'elle veut effectivement nous faire dire? Quand on lit la tribune qui rend plutôt un succès en ce moment, quel est le principal message que vous lancez notamment et auprès de qui, Karim Amlal?
Le message, il est très clair. Il faut qu'on accepte la France telle qu'elle est, et notamment dans sa pluralité, dans sa diversité, parce que cette France-là, elle est belle, et cette France-là, c'est la nôtre. Et on l'aime, on y tient, on veut la défendre, et on veut la garder, mais on veut aussi, et c'est le deuxième message, on veut l'améliorer, parce qu'on considère que la République, c'est magnifique, la République française, c'est très beau, mais les principes sonnent parfois un peu creux. Alors il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a beaucoup de travail qui a été fait par exemple en matière d'éducation, je pense au dédoublement des classes de CP, des choses comme ça, il y a aussi des choses qui ont été faites durant ce quinquennat, mais il nous semble qu'on peut encore faire plus et faire mieux, notamment sur ces sujets-là, c'est ce qu'on va essayer de faire modestement en poussant nos idées, nos propositions.
Alors justement, est-ce que c'est pas un peu, je vous pose la question de façon très claire, est-ce qu'il n'y a pas des paradoxes quand on parle d'égalité des chances? Cette égalité des chances, finalement, est-ce que c'est pas un faux concept aujourd'hui qui aveugle ces inégalités sociales?
Mais oui, vous avez raison, Adil. Je vous le disais, l'égalité des chances, ça ne veut plus rien dire à personne. C'est un truc qui tourne à vide. C'est un concept qui tourne à vide. Donc il faut essayer de redéfinir ce que c'est que l'égalité des chances et puis peut-être aussi trouver d'autres mots pour en parler. Nous, on préfère parler d'égalité d'accès. C'est ce qui nous paraît le plus important parce que vous savez, quand on parle d'égalité des chances, la plupart des gens, ils entendent un peu le loto. On n'aime pas trop le loto. Hein,
oui.
On perd plus souvent qu'on gagne au loto. Et l'égalité des chances, c'est un peu ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est très très simple. On a des principes républicains qui sont extrêmement forts, tout le monde les connaît, on les apprend quand on est petit, c'est liberté, égalité, fraternité. Notre job, c'est de faire en sorte que ces principes-là, ce soit une réalité pour tous, quel que soit notre milieu, notre origine.
Je veux bien.
Et qui que soient nos parents ou le lieu où on a.
Je veux bien, Karim Amlal, vous êtes le fondateur de Pluriel, mais dans les faits, Karim Amlal, est-ce que cette égalité des chances, méritocratique ou pas d'ailleurs, n'est-elle pas dominée par un tropisme élitiste?
Si, bien sûr. C'est... Après, l'élitisme, si l'élitisme, ça veut dire récompenser le talent, ça veut dire récompenser l'effort, récompenser le travail, bah oui, je veux bien être élitiste. Et quand on est bon à l'école, on a vocation à atteindre le job le plus élevé dans la hiérarchie sociale. Et rien ne doit s'opposer à ça. Rien ne doit entraver ça. Et dire cela, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de tous les gens, de tous les autres, là encore, quel que soit leur milieu, quelles que soient leurs origines.
Alors comment lutter contre les inégalités, justement?
C'est s'occuper de tout le monde.
Oui. Comment lutter contre les inégalités? L'accès aux grandes écoles, la représentation nationale, la représentativité, évidemment, au sein du service public. Comment en finir avec tout ça? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, Karim Amlal, ceux qui sont dans la démocratie, dans la méritocratie aujourd'hui, le vivent très mal, d'ailleurs. Ils en souffrent.
Ben évidemment qu'ils en souffrent. Ils ont, c'est pas qu'ils ont raison d'en souffrir, on n'a jamais raison d'en souffrir, mais en tout cas, ils ont raison de se plaindre. Et ils ont raison de ne pas être contents du fait que nos principes, les principes de la République, ne soient pas une réalité dans les faits. Comment on fait pour plus d'égalité, pour arriver à plus d'égalité, pour lutter contre les inégalités? Nous, on fait des propositions dans cette tribune, je peux les détailler évidemment, mais j'invite chacun à lire la tribune.
Publiée dans le JDD.
Fait des propositions. Dans le JDD, on fait des propositions sur l'école, sur les quotas de boursiers dans les filières sélectives, dans les grandes écoles. On fait des propositions sur la représentation de la diversité dans les entreprises, sur la mesure de la diversité. Parce que si on ne sait pas qui fait quoi et qui est qui dans nos grandes organisations, on n'y arrivera jamais. Donc il faut trouver les moyens de mesurer c'est diversité. On y arrive pour certains, on y arrive pour les femmes, on y arrive pour les personnes en situation de handicap. On doit pouvoir le faire plus largement, et puis on doit aussi évaluer les progrès qui sont faits par les entreprises notamment, et pas que les entreprises. On fait des propositions aussi sur la gratuité du permis de conduire pour tous, parce qu'on sait que dans la ruralité, par exemple, c'est un obstacle, mais aussi dans un certain nombre de quartiers populaires pour des personnes, des jeunes de catégories ou de conditions modestes. On fait des propositions aussi pour une plus juste représentation de la diversité à l'écran. C'est très important que notre cinéma, par exemple, qui cartonne avec de très beaux films, avec des films qui se vendent dans le monde, eh bien, soit représentatif de la France telle qu'elle est. Mmh. C'est important, et politiquement c'est important, parce que si les gens, et les jeunes en particulier, ne se sentent pas représentés, et notamment à l'écran, bah, tout simplement ils n'iront pas voter, et la République, ça leur paraîtra toujours être une promesse complètement vaine. Il faut que la République, ce soit concret pour tout le monde.
Alors c'est quoi ce nouveau défi justement, même si vous en parlez dans votre tribune, mais quels sont les défis qui nous attendent justement?
Bah, les défis qui nous attendent, c'est, on en parle évidemment, je vous le disais, c'est une plus juste représentation de la diversité.
Non mais concrètement, je l'entends monsieur Karim Amlal, mais concrètement ça donne quoi ces défis qui nous attendent prochainement? Évidemment, parce que par exemple on parle d'effet miroir. Clairement notre société aujourd'hui, comment représenter cet effet miroir par exemple?
Oui, bien sûr. Bah, je vous ai donné, mon cher Adil, un certain nombre de propositions à l'instant sur des quotas dans un certain nombre de productions cinématographiques, dans un indice de la diversité, une évaluation des politiques de diversité dans les entreprises. Il y a des mesures très techniques et très concrètes. Il faut ensuite qu'on puisse les évaluer, qu'on puisse évaluer les progrès qui sont faits dans les différentes organisations. Vous savez, Sciences Po a mis en place, et c'est pas, on peut le faire dans plein d'organisations, pas qu'à Sciences Po, une filière spécifique de recrutement d'étudiants qui viennent de lycéens qui viennent de ZEC. C'est quelque chose que, ça fait 20 ans qu'on en parle. Il faut systématiser ce type de filière. Il faut aller chercher les jeunes là où ils sont. Il faut les accompagner. Ça veut dire qu'il faut plus de tutorat, beaucoup plus tôt, dès le collège, dès le lycée. Il faut du mentorat, en particulier pour ceux qui sont en difficulté. Donc il y a plein de mesures techniques qui existent, que nous connaissons, qui sont mises en œuvre ailleurs, et qui sont mises en œuvre aussi, mais au compte-gouttes en France, et qu'il faut systématiser dans le cadre de plans d'action, avec une vraie stratégie, avec de l'évaluation. Tout ça, ce ne sont pas des choses en l'air. Vous savez, il y a plein de pays qui sont dans la même situation que la France, et il y a plein de pays qui, sur ces sujets-là, réussissent mieux que nous. Il faut voir. Comment il faut faire la même chose.
Karim Amlal, elle est destinée à qui cette tribune? Auprès de qui et à qui s'adresse-t-elle?
Je vous ai pas entendu, Adil.
Non, je disais, cette tribune dans le JDD, que vous retrouvez sur Internet, d'ailleurs pour tous celles et ceux qui veulent découvrir votre tribune, vous, fondateur de Pluriel, signé par différentes personnalités, elle s'adresse à qui précisément? Et à qui elle vous voulez vous adresser?
Bon, alors d'abord, on est dans une campagne électorale, donc on s'adresse aux personnalités politiques, on s'adresse à ceux qui sont en responsabilité, puis on s'adresse évidemment à ceux qui demain seront en responsabilité. On s'adresse à toutes les personnalités politiques, et plus largement, ce qu'on veut faire, c'est mobiliser autour de nous, et puis essayer aussi sur ces sujets-là de créer un rapport de force. Vous savez, si on ne parle pas assez de ces sujets-là, c'est parce qu'ils n'existent pas suffisamment dans le débat public, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à s'organiser, à se structurer. C'est le but du mouvement Pluriel, que de nous rassembler pour dire « Eh oh, les amis, nous sommes là. Nous sommes là et nous ne comptons pas pour du beurre. Nous pouvons voter, nous exerçons des responsabilités un peu partout en France. Nous avons des positions sociales. Notre voix compte. Elle ne compte pas simplement le jour de l'élection. Elle compte toute l'année. Et le mouvement Pluriel, c'est ça. C'est nous organiser, nous rassembler pour porter des idées, des propositions, comme on l'a fait dans cette tribune et comme on va le faire de plus en plus dans les semaines qui viennent, et puis pour créer un rapport de force politique, pour dire au futur président de la République, que ce soit Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre, moi, vous savez, je le soutiens et je souhaite que ce soit Emmanuel Macron qui se présente, on verra ce qui se passe normalement cette semaine, mais en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est porter ces propositions et les porter jusqu'au bout. Mais on ne pourra pas les porter et elles ne seront pas mises en œuvre si on n'est pas suffisamment fort, si on n'est pas suffisamment unis pour continuellement créer ce rapport de force et maintenir ce rapport de force.
Merci d'avoir été avec nous, Karim Amel, le fondateur du mouvement pluriel. À très bientôt sur notre antenne.
À bientôt.
À bientôt, 19h15, où nous allons marquer la première pause pub et on se retrouve dans une poignée de minutes avec nos débatteurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés tout de suite, c'est le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Avec notamment celui que vous connaissez maintenant, que c'est une voix familière désormais dans les informés sur Beurre FM. Jimmy Dalidou, comment ça va ?
Ça va, bonsoir à tous.
Il est syndicaliste CGT, mais également aussi auteur. Face à lui, un maire adjoint qui nous vient du nord, d'une petite ville près de Lille. Il est avec nous, il s'appelle Baptiste Ménard. Bonsoir Baptiste Ménard.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Ça va ?
Très bien.
De passage à Paris ?
Absolument.
Allez, c'est parti messieurs, tout de suite, nous allons commenter cette actualité. Je voudrais prendre cette actualité toute récente concernant le président Zelensky, qui demande officiellement l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Je voudrais vous proposer ce court extrait de sa déclaration et revenir en parler, justement, n'est-ce pas trop tard ? Aux yeux de même, d'ailleurs, l'Europe n'a-t-il pas trop attendu concernant cette crise ? Écoutons.
Et aujourd'hui, nous luttons pour la survie. C'est cela notre motivation première au jour d'aujourd'hui. Mais nous luttons aussi pour devenir des membres à part entière de l'Europe, des Européens à part entière. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons montré qui nous sommes. Et je pense qu'avec nous, l'Union européenne sera plus forte. Et sans nous, l'Union européenne sera seule. Nous avons prouvé notre force. Et nous avons prouvé que nous sommes au moins les mêmes que vous.
Le président Zelensky demande officiellement aux Européens, via cette vidéo que vous venez d'écouter, de prouver qu'ils sont avec l'Ukraine dans ce conflit, de prouver, ne nous lâchez pas, ne vous laissez pas. Le président ukrainien, messieurs, comment on réagit face à cela ? Justement, Jimmy Damidou, j'aimerais vous entendre, effectivement, il dit, hein, prouvez que vous êtes avec nous. Il leur demande, hein, prouvez que vous êtes avec nous.
Prouver que vous êtes
avec nous. Ils ont été lâchés ?
Le problème, moi je dirais pas qu'ils ont été lâchés, moi je dirais que... D'abord, avant d'intégrer l'Union européenne, il faudrait qu'ils se positionnent. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je suis de tout cœur avec du côté du peuple ukrainien et qui vivent un véritable cauchemar en fait. Je pense aux enfants, etc. C'est vraiment un truc. C'est la pire des choses qui pourraient arriver en fait, vivre sous les bombes. Mais malheureusement, ils ont un gouvernement, le gouvernement ukrainien, se présente comme un gouvernement fantoche. C'est un gouvernement fantoche.
Pourquoi vous dites
ça ? On va revenir aux événements de Maïdan. Et c'est là où le bât blesse, en fait. Je dirais qu'avant d'intégrer l'Union européenne, il faudrait qu'ils se positionnent par rapport aux événements de... Alors, dans les médias occidentaux, à l'époque, ils avaient présenté les événements de Maïdan comme étant une révolution démocratique, presque. Non, c'était un coup d'État nazi. Et je peux prendre des exemples concrets. Hein.
Je veux bien. Évidemment, on va sur un terrain.
J'ai prévu. Hein. Faut pas oublier que Place Maïdan, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aviez deux organisations qui ont attisé les contradictions. Et quand je dis contradictions, c'est dans le sens marxiste du terme. Quand il y a un conflit entre deux opposés, plus ou moins. Bref, il y a eu des contradictions entre deux grandes forces, pro-européennes, pro-russes. D'accord ? Il y avait deux organisations qu'on appelait Pravi Sector et Svoboda, qui étaient très actives. D'accord ? Vous vous souvenez, Svoboda, avec qui très avait bien, pour chef bien, de file Oleg Tianibok. Bon, ben, je rappellerai plusieurs choses. C'est que Mein Kampf a été distribué place Maïdan pendant la déstabilisation de la place Maïdan en Ukraine. Je rappellerai aussi que Svoboda Pravi Sector portait des, vous savez, les bandeaux là vous mettez sur le bras qui représentaient la Wolf, alors vous m'excuserez, je parle pas allemand, Wolf Zengel, c'est-à-dire des unités SS qui s'étaient malheureusement et d'une manière barbare montrées lors de la deuxième guerre mondiale. notamment à, vous vous rappelez, Oradour-sur-Glane. D'accord? Bon, ben, et on va pas. Et j'ai aussi d'autres exemples, hein. On peut revenir aussi sur ce qui s'est passé, en novembre 2015. Novembre 2015, il y a eu un texte qui est, alors, juste le temps de reprendre la page de mon bouquin, qui a été, voilà, novembre 2015, un texte qui était une condamnation de la glorification des nazis, que les pays occidentaux qui se disent démocratiques n'ont pas voulu valider. Mmh. Donc, et je peux prendre d'autres exemples, hein, puisqu'on sait aussi que Svoboda et Pravi Sektor, qui ont participé à la déstabilisation de l'Ukraine via les événements de Maïdan, certains ont intégré le gouvernement ukrainien ensuite.
Alors, voler,
à des postes clés.
Évidemment.
Pour moi, il faudrait qu'ils se positionnent par rapport à ça déjà.
Avant de lancer le message,
avant d'intégrer l'Union européenne.
On peut pas
intégrer l'Union européenne qui se dit démocratique entre guillemets, et je place des guillemets parce que vous connaissez mon avis là-dessus, je ne suis absolument pas d'accord avec la notion de démocratie qui est pour moi une utopie, une fantaisie. Et d'abord, je voudrais qu'il se positionne par rapport à ça. Avant d'intégrer l'Union européenne.
On va écouter justement Baptiste Ménard. Est-il d'accord ou pas? Nous allons l'écouter.
Alors, d'abord, effectivement, moi, je voudrais dire ma solidarité avec le peuple ukrainien qui traverse quand même quelque chose qu'on pensait ne plus jamais vivre, ou en tout cas qu'on ne voulait plus vivre. Et c'est sûr que ça nous bouleverse tous et ça nous questionne tous dans notre rapport au monde et dans la manière dont on perçoit les choses. Ensuite, je voulais dire aussi que nous assistons d'abord à un double échec de Vladimir Poutine. Puisqu'il voulait la division de l'Union européenne, il aboutit à son unité. Il voulait la disparition de l'OTAN, il aboutit à sa réhabilitation. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Ensuite, sur la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, je crois qu'il faut être très clair. Il est normal que l'Union européenne tende la main et dise que la candidature est recevable. Je pense que, par contre, il est prématuré d'évoquer tout de suite l'adhésion en tant que telle, et là, dans les semaines à venir. Et non seulement c'est prématuré, mais surtout ça ne servirait à rien, puisque là, aujourd'hui, l'urgence...
Il le fait, le président ukrainien.
Bah, parce que lui, justement, il sait que la peur de Vladimir Poutine, c'est de voir l'Ukraine intégrer l'Union européenne. Donc, lui aussi, comme on est dans le rapport de force, le président Zelensky monte la barre, j'allais dire, tous les jours, pour mettre aussi Vladimir Poutine en difficulté. Mais j'allais dire que ça n'est pas cette adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine qui résolvera la situation actuelle, puisque aujourd'hui la difficulté, c'est d'abord de sortir les Russes, puisqu'ils violent le droit international en menant la guerre depuis maintenant quelques jours.
C'est un raccourci que tu fais là, en disant
pourquoi
c'est un raccourci.
Pourquoi
non, parce qu'en fait. Alors encore une fois, je me positionnerai. Alors d'abord, que les choses soient claires auprès des auditeurs, c'est que je me positionne du côté d'aucun gouvernement. Pourquoi ? Parce que pour moi, simplement, le gouvernement français, ukrainien et russe sont des gouvernements capitalistes, impérialistes. Je me positionnerai toujours du côté du peuple.
Une fois qu'on a dit ça,
faut pas oublier une chose, un truc que t'as oublié de rappeler, c'est qu'il y a eu une date importante, le 11 mai 2014. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 mai 2014? Il y a eu alors deux dates, le 16 mars 2014 et le 11 mai 2014.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors le 16 mars 2014, il y a eu un vote, notamment quand il y a eu l'annexion de la Crimée à la Russie, d'accord?
Exact.
Il y a eu un vote. Le vote a démontré que la majorité du peuple de Crimée voulait leur intégration à la Fédération de Russie. Ensuite, ça déjà, c'est un premier élément important.
Oui.
D'accord? Donc il y a un effet de causalité par rapport à ce qui se passe.
Oui.
Deuxième date importante, je vous rappellerai qu'il y a eu le 11 mai 2014, c'est que lorsque les milices pro-russes se sont positionnées, ont commencé à s'armer, à s'organiser pour lutter et en espérant l'intégration à la Fédération de Russie, ils ont organisé un vote, le 11 mai 2014, pour démontrer, et le vote a démontré qu'ils voulaient intégrer la Fédération de Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Poutine a refusé de reconnaître le vote. Il a, le 11 mai 2014, alors que ce vote était un vote organisé par les milices pro-russes, monsieur Poutine a refusé de reconnaître ce vote. Pourquoi? Pour deux choses. Parce que il faut arrêter de faire croire des fantaisies aux auditeurs. Pour intégrer l'Union européenne, d'abord, il faut que le pays soit en paix. Tu peux pas intégrer l'Union européenne et l'OTAN si ton pays est en guerre. Donc la première chose, en refusant de reconnaître ce vote du 11 mai 2014, Poutine savait très bien qui n'empêchait l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN parce que il pérennisait dans le temps ce qu'on appelle une guerre gelée. Et ensuite, ça posait clairement la question de l'autodétermination des peuples. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne certains termes. D'accord? Le terme de l'autodétermination des peuples.
Eh ben, on revient en parler justement.
Messieurs,
Jimmy Dalidou et Baptiste Ménard. On revient, on continue d'en parler, messieurs. Pour l'heure, avec une minute de retard, c'est tout de suite le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, comme chaque mardi, c'est avec Faïza Ben Mohamed, journaliste indépendante. Bonsoir, ma chère Faïza.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, et bien justement, sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. On vous écoute.
Alors exactement Adil, j'ai pensé qu'aujourd'hui il était important qu'on aborde ce sujet. On en a un petit peu parlé ces derniers jours dans l'espace médiatique français. On est, vous le savez, au sixième jour aujourd'hui de cette guerre menée par la Russie en Ukraine.
Oui.
Et on a vu le président Macron complètement investi, il est sur le qui-vive hein, pour tenter d'obtenir non seulement un cessez-le-feu, mais aussi la mise en place d'un couloir humanitaire pour protéger et évacuer donc, le public qui se trouve sur place. Autrement dit, en tout cas, c'est mon avis personnel, il faut reconnaître que, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, bah, la France, de ce point de vue-là, elle est largement à la hauteur. Et alors, on a vu qu'on proposait au niveau des autorités d'accueillir des réfugiés ukrainiens. On a aussi la SNCF, qui va leur permettre de voyager gratuitement sur tout le réseau ferré. On a même des élus qui ont appelé les particuliers à se porter volontaires pour héberger des réfugiés chez eux. Et on peut dire que la solidarité qui s'organise rapidement, et elle est vraiment à saluer. Mais, il y a évidemment un mais hein, pour moi quand je fais des éloges d'un point de vue politique, il y a des événements qu'on doit absolument et impérativement dénoncer, chacun à notre échelle. On a vu à la frontière polonaise des réfugiés noirs, originaires principalement de pays d'Afrique, qui ont été empêchés de monter à bord des cars d'évacuation.
On l'a vu, effectivement.
Pour ceux qui sont un petit peu moins bronzés, et ça, c'est inadmissible. Mm-hmm. Les faits, ils ont même poussé l'Union africaine.
Ces fameux étudiants, notamment, effectivement, vous avez raison de le rappeler, vous savez, c'est très juste, y compris de l'Égypte, du Maroc, de l'Algérie et de l'Afrique, évidemment, subsaharienne. Inadmissible.
Alors, ils ont poussé l'Union africaine hier à réagir par la voix du président sénégalais Macky Sall, qui a dénoncé donc des faits qui sont choquants et racistes, qui ont visé, comme vous venez de le dire, des étudiants marocains, des Somaliens, des gens qui viennent de divers pays d'Afrique. Mais
on leur a dit non, vous restez là et les autres vous montez.
Exactement ça.
Et les autres vous montez. Alors c'est un tri qu'on a pu voir sur des vidéos aussi, hein, qui ont poussé notamment par exemple, je pense au Maroc, qui a déployé beaucoup de personnel consulaire pour les aider directement sur place parce qu'on voyait bien que la voie était complètement obstruée pour eux parce qu'ils sont sans doute peut-être trop bronzés. Et je me dois de rappeler qu'en France, sur notre territoire, il y a des réfugiés qui vivent dans des bidonvilles de fortune aux portes de Paris, à Calais, dans des conditions absolument indignes. Et j'en appelle vraiment à l'humanité de chacun. Parce que les autorités françaises, aujourd'hui, elles nous montrent qu'il est possible d'accueillir dignement et qu'elles veulent faire et qu'elles vont le faire. Alors soyons solidaires des Ukrainiens, c'est d'ailleurs, on l'a vu, une évidence, hein, mais il ne faut pas oublier que la dénonciation de l'offensive russe, on ne peut pas nous faire oublier ceux qui, au Yémen, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, ou encore en Somalie, ont subi des persécutions avant de se retrouver ici en France, sur notre sol, malmenés par un système qui leur a fermé toutes les portes, sans longue humanité.
Je vois effectivement votre biais d'humeur avec la chose sous-jacente qui vient nous mener avec ce traitement à deux vitesses. C'est bien cela, ma chère Faïza, hein ?
C'est exactement ça. Chacun aura l'interprétation qu'il veut.
Exactement. Bah, en tout cas, moi, je l'entends comme ça et vous avez raison d'en parler. C'est très juste. Bon, merci, ma chère Faïza Ben Mohamed, journaliste indépendante. À mardi prochain, sans faute.
À la semaine prochaine.
Portez-vous bien. Bravo pour ce billet d'humeur, 19h35. Nous allons marquer la dernière pause pub et on se retrouve avec Jimmy Dalidou, Baptiste Ménard, pardonnez-moi, et le 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkas.
Dernière petite info, la guerre économique continue puisque Moscou menace désormais la France. Justement, dans cette guerre économique, en disant évidemment que tout cela, ça va chauffer. Est-ce qu'on peut être inquiet, messieurs?
Ah, il faut être très très inquiet, très très inquiet.
Jimmy Dalidou.
Alors, vous me permettrez de renvoyer les auditeurs vers un de mes articles qui pourront retrouver sur le média Le Grand Soir, Le Grand Soir Info, où je parle de la cyber guerre impérialiste.
Oui.
Et en fait, ce qui est très très alors outre les possibilités, la puissance de feu que détiennent tous ces pays-là, hein, qui pour moi sont des puissances impérialistes, que ce soit la France ou la Chine, la France Chine ou la Russie, il y a aussi une guerre qui prend une nouvelle forme. En fait, on assiste en même temps à des cyberattaques qui émanent des deux côtés, et on sent que le cyberespace est très pesant, il est très présent. Et en fait, on peut être très inquiet parce que on en avait parlé, mais c'est bon de rappeler que les différentes puissances impérialistes occidentales, eurasiatiques, etc., ils sont en concurrence, mais aussi interdépendants. Quand on parle d'économie mondialisée, on parle d'une interdépendance de tous ces pays-là. Donc, il y aura un impact dans nos conditions d'existence. Concrètement.
Est-ce qu'on peut être inquiet, Moscou qui déclare, évidemment, qui menace la France désormais dans cette guerre économique?
Oui, on peut et on doit être inquiet parce qu'on assiste à une forme d'escalade. D'ailleurs, les propos de Bruno Le Maire ce matin n'étaient vraiment pas de ce
point de vue-là,
pas diplomatique. Moi, je soutiens.
Il s'est un peu planté.
Bah oui. Moi, je soutiens Emmanuel Macron dans sa volonté de faire la diplomatie jusqu'au bout. Même si je pense qu'il a fait erreur d'arriver et d'annoncer avec tambour et fifrelin la tenue d'un sommet entre les USA et la Russie, dont on a bien vu l'échec et dont on a bien vu que, et vous l'avez rappelé d'une certaine manière tout à l'heure, Vladimir Poutine,
tu peux me tutoyer, hein.
Oh, alors c'est encore mieux, tu l'as rappelé tout à l'heure, mais Vladimir Poutine poursuit un grand projet. En fait, jusqu'à la semaine dernière, je me disais, en fait, il est nostalgique de l'URSS, mais au final, je me dis qu'il est carrément nostalgique de la grande Russie, de l'époque des tsars, en fait. Mmh. Et il ne supporte pas de voir la démocratie progresser. Donc là, je m'inscris en faux par rapport à ce que tu as dit. C'est bel et bien la démocratie qu'il ne supporte pas.
Non, mais tu peux pas nier le fait. Alors, encore une fois, sans prendre parti du.
Et c'est pour ça qu'il va au bout de sa démarche.
Non, mais en fait, tu peux pas nier le fait. Alors moi, je partirai pas dans ce débat qui consiste à dire est-ce qu'il y pense réellement, qu'il y pense pas. Parce que il y a une réalité, c'est que lorsqu'il y a la chute de l'Union soviétique, entre 1989 et 1991, quand il y a la chute de l'Union soviétique, faut arrêter de croire que tous les soviétiques étaient pour la chute de l'URSS, c'est faux. Ah bah. 70%, il y a eu un vote, 70% des soviétiques étaient contre la chute de l'Union soviétique.
Donc ça veut dire qu'en fait,
il y a, c'est ça dont on parle quand on parle de nostalgie. Alors, encore une fois, je prends pas position. Ce que je dis, c'est qu'il y a une histoire, il y a un mouvement, ce qu'on appelle chez nous un mouvement dialectique, il y a un mouvement, c'est compliqué, et en fait, il y a eu des événements en 89, et je pense que la contre-révolution capitaliste qui a été menée par Gorbatchev et Eltsine, je pense qu'il aurait, c'était une connerie, parce que il aurait fallu chercher l'équilibre social entre les deux blocs, il aurait fallu chercher l'équilibre plutôt que de verser dans cet égocentrisme impérialiste qui consiste à dire ah ben non, moi je veux pas ah non, un bloc rouge à côté de moi, un bloc socialiste, ah non, berk, donc on lance la contre-révolution capitaliste. Ben non, c'est pas aussi simple que ça, parce que là actuellement ce sont les conséquences de la contre-révolution capitaliste menée par les pays puissances occidentales avec à la tête
Baptiste Mellard, de cette
contre-révolution
là où tu as tort, c'est que justement on est dans un moment historique et qu'on a rendez-vous avec l'histoire et qu'on ne peut pas dire comme tu le dis.
Ah, j'ai pas dit le contraire.
Non, si, parce que tu dis, moi je
ne prends pas dit le contraire. T'as pas compris ce que j'ai dit.
S'il vous plaît.
Tu ne prends pas position et tu mets un signe égal entre le régime politique.
Je prends position du côté des opprimés.
Ukrainien et le régime politique russe, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi ? Parce qu'il y a un régime qui se met en situation d'agresseur, c'est le régime russe.
Non, je pense que cette position, elle est trop simple. Elle est simpliste, elle est infantilisante.
Elle est malheureusement.
C'est une négation du mouvement de l'histoire, ce qui s'est passé.
Non, elle est malheureusement le fruit de la réalité.
Non, parce qu'en fait, si on t'écoute,
s'il vous plaît,
la France, elle est gentille, la Russie, elle est méchante.
Non, mais je ne dis pas ça.
Le mouvement de l'histoire n'est pas aussi simpliste que ça, malheureusement.
Mais là, on est amené à prendre position dans le présent.
Laissez-le aller au bout.
Là, on est amené à prendre position dans le présent. Dans le présent, on a le régime russe qui, je l'ai expliqué tout à l'heure, Vladimir Poutine, ne supporte pas de voir la démocratie progresser, ne veut pas voir l'Union européenne garantir son unité et prôner un certain nombre de valeurs que lui-même conteste. Il se met en situation d'agresseur. Il y a des populations qui souffrent en Ukraine.
C'est le capital,
l'agresseur. Et nous devons unanimement.
Non, mais tu sais ça.
et nous devons unanimement.
Tu sais que c'est le capital l'agresseur.
Souffre que je termine.
Et que le capital occidental
et nous devons
le capital eurasiatique, c'est la même chose.
Et nous devons unanimement apporter notre soutien au peuple ukrainien en souffrance.
Il faut, il faut soutenir les Ukrainiens.
Quand tu refuses de, quand tu mets un signe égal entre le régime politique russe et le régime politique ukrainien, eh bien là, tu n'es pas du côté du.
Je n'ai pas dit ça. T'as pas compris ce que j'ai dit.
Si, c'est ce que tu as dit.
T'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que premièrement, le gouvernement ukrainien, qui est un gouvernement fantoche, doit se positionner par rapport à ce qui s'est dit tout. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les événements de Maïdan et ces partis qui
on
sont.
On va refaire le débat. Il faut qu'on avance.
Il faut qu'ils se positionnent par rapport à ça parce qu'on peut pas intégrer dans l'Union européenne
un gouvernement. Son pays
et j'ai dit ensuite que par rapport à la Russie, au gouvernement russe, il y a un passé, il y a eu
le peuple
russe a un passé et qu'il faut respecter le passé de ce peuple russe.
Et la majorité accepter l'agression.
Tout le peuple russe ne sont pas forcément du côté de l'Union européenne. Ça faut l'accepter.
Ni du côté de Vladimir Poutine. Ça faut l'entendre.
Tout à fait. Et j'ai pas dit le contraire.
Messieurs, on traite le second sujet.
Allez.
S'il vous plaît, parce que évidemment, j'ai laissé volontairement traîner le débat, le coup de tonnerre à la CGT. Tiens, ça vous parle, ça, vous êtes syndicaliste.
Ouais.
Après ces accusations de viol et de torture, je veux parler de ce leader médiatique, vous le connaissez tous. C'est un visage médiatique, il s'appelle Benjamin Hamar, le porte-parole du syndicat. Il a été, vous savez quoi, suspendu de tous ses mandats nationaux après un dépôt de plainte d'une militante à son encontre. Alors, que se passe-t-il chez vous?
Quand
je dis chez vous, c'est la CGT. Alors, j'ai mis Dalidou.
La première chose, je dirais, c'est que sur ce qui s'est passé, moi, faut revenir à des bases simples, qui est que il y a une enquête qui va être ouverte.
Parce que même au sein de ce mouvement syndicaliste, ça divise.
Si vous voulez, la division. Je pense qu'il faut pas confondre ce qui s'est passé au niveau du. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais pas là. On va attendre ce que va dire la justice. Il y aura une enquête. Voilà. Après, s'il a fait quelque chose, si c'est une réalité, il sera puni, il se passera ce qui doit se passer. Je pense que à ce niveau-là, il faut laisser faire la justice. Ensuite, je pense, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est la position des médias.
Oui.
C'est-à-dire, on a l'impression en France que les médias, ils sont à l'affût de ce qui se passe à la CGT. Mmh. Et dès qu'il se passe quelque chose à la CGT, vous avez tous les médias qui se braquent sur le truc. Et ils font la confusion entre. Non, mais je veux dire, il faut. Alors, encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé, on verra. Mais la confusion qui met en exergue dans cette dérive médiatique, qui pour moi est une dérive médiatique, ça consiste à dire, il y a un événement, il y a un possible événement qui émane de ce personnage-là. Forcément, indirectement, c'est comme ça que ça fonctionne à la CGT. Non, je pense qu'il faut pas tout confondre. Il y a une CGT, une organisation syndicale qui est majoritaire, qui est représentative. Elle compte beaucoup de militants. Effectivement, il y a des problèmes, comme toutes les organisations. Il y a une lutte de courant, comme toutes les organisations. Et je pense qu'il ne faut pas confondre le fonctionnement d'une organisation syndicale, quelle qu'elle soit, et des événements qui sont. On va attendre ce que va dire la justice.
Baptiste Ménard.
Non, mais déjà, je pense que les médias, là, ils ne mettent pas en difficulté la CGT. Ils relatent ce que l'on voit depuis maintenant plusieurs années, une libération de la parole des femmes et une libération de la parole des victimes. Ça, il faut le saluer. Ensuite, je suis d'accord avec toi, il faut que la justice puisse faire son travail. Et je suis d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas, s'il y a un cas qui, on l'espère tous, est isolé, ça ne jette pas l'opprobre sur tous les syndicalistes de la CGT. Mais je crois qu'il faut saluer la libération des paroles des victimes. Et il faut laisser la justice faire son travail. Mais encore une fois, si cette affaire peut permettre que dans le débat de l'élection présidentielle, qui va être compliqué compte tenu de la situation internationale sur laquelle on a beaucoup débattu, si on peut évoquer la question des violences faites aux femmes, des violences sexuelles et sexistes, eh bien, je crois que c'est une bonne chose.
Ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que la CGT, il faut dire les choses comme elles sont, les organisations syndicales, comme tu disais, le contexte social et politique, etc., il est compliqué pour tout le monde. Et je pense qu'on va arriver dans des malheureusement on va arriver à un moment de notre, je pense qu'on est à un point nodal de notre histoire et que malheureusement nos conditions d'existence matérielle, notre vie sociale va décroître. Il faut s'y attendre en fait. Je pense qu'il faut pas faire croire à des fausses choses aux gens. Il faut vraiment leur dire que la vie va devenir très difficile.
Ah, ça c'est
bon. Et malheureusement, les syndicats, ils sont ce qu'ils sont avec leur vécu. Ils ont des difficultés. On a des difficultés au sein de la CGT. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la confusion qui peut se faire très rapidement. Et voilà, il faut pas tout confondre. On a une CGT qui est assez influente, qui détient un ancrage social dans la classe ouvrière, les couches populaires et chez les salariés d'une manière générale. Et ce comportement, encore une fois, on prend des pincettes, on verra ce que va donner l'enquête au niveau de la justice. Mais de toute façon, s'il s'avère que ça s'est véritablement passé, ça ne reflète pas un fonctionnement normal à la CGT.
Sauf que c'est une figure emblématique. Ça c'est clair. Sauf que c'est une figure
médiatique. Il y aura un impact. Il y a un impact. Ouais, forcément, il y aura. Mais je pense que la Confédération.
Ça vient quand même entacher la CGT.
J'appelle la Confédération à prendre la décision qui sera la plus logique et nécessaire.
C'est normal,
une fois
que
ce sera.
C'est normal, il a raison. On peut pas.
Après, c'est les coupables,
c'est normal que les médias s'en fassent l'écho. Ce qui n'exclut pas, j'allais dire, qu'on salue le travail des syndicats. Moi, je suis le premier à dire qu'on a besoin des syndicats en France. Je suis le premier à dire que Emmanuel Macron les a écrasés dans le cadre de ce quinquennat, qu'il faut leur redonner du poids. Il faut que les salariés se syndiquent, mais il faut bien aussi reconnaître que ce genre d'affaires n'aide pas.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut dénoncer ces faits. Il faut que la justice fasse son travail. Il faut que, unanimement, les syndicalistes de la CGT saluent la libération de la parole des victimes. Et s'il y en a d'autres, elles doivent se faire connaître. Et que c'est comme cela, justement, que vous pourrez tourner
Monsieur,
la page.
Monsieur, un mot, s'il vous plaît, avant de rendre l'antenne sur les insoumis qui disent en avoir marre que Jean-Luc Mélenchon soit présenté comme l'ami des dictateurs.
Ce qui est logique.
Ce
qui est logique.
Bah oui, mais Jean-Luc Mélenchon paye là le fruit.
Logique,
de ses,
non, certains vous diront.
Non, mais il paye là le fruit de ses ambiguïtés. Bah, il paye là le fruit de ses ambiguïtés. On le sait, hein, il a un rapport contrarié. Il se réclame sans cesse de la République, mais il soutient parfois des gens qui sont antidémocrates. C'est le cas, par exemple, de Nicolas Maduro au Venezuela, qui d'ailleurs soutient Poutine. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée.
Il faut être juste précise. En fait, il est victime, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise sont victimes, en fait, de leur position en tant que social-démocratie. Alors, juste, je rappelle ce que c'est la social-démocratie pour nos éditeurs, parce que...
C'est pas ce qu'est la France Insoumise, c'est le Parti Socialiste.
La social-démocratie, son rôle dans une dictature du capital, c'est de faire le lien entre les masses populaires et les rouages de fonctionnement du système. C'est-à-dire, il fait l'intermédiaire. La France insoumise matérialise la nouvelle social-démocratie.
N'est-ce pas un petit raccourci,
ce
que vous êtes en train de
nous dire? Ouais, là, je crois qu'on assiste à un...
Hein, en fait, c'est une
social-démocratie. Ça, c'est votre définition.
En fait, il est pris entre deux feux. Sa nécessité de se positionner du côté des masses populaires et sa nécessité de ne pas être en opposition par rapport au gouvernement.
Non, c'est pas sérieux. Jean-Luc Mélenchon paie le fruit de ses ambiguïtés. Et en même temps, il ne faut pas... comment dirais-je, réduire
pour
cela
toi, la social-démocratie,
parce qu'il y a une différence entre Jean-Luc Mélenchon et les militants de la France insoumise. J'en rencontre beaucoup qui sont mal à l'aise par rapport à un certain nombre de ses positions, et comme je le disais tout à l'heure, on peut pas se réclamer H24 de la République et en même temps soutenir des gens qui ne sont pas démocrates, en même temps je te dirais que lever le poing et chanter la Marseillaise
aussi, c'est un petit peu ambigu, troublant comme position. Donc après, il faudra qu'il se positionne. Mais de toute façon, il aura les élections présidentielles vont lui permettre de le faire normalement.
Là, ça va être compliqué au regard de la situation internationale parce que on voit bien que malheureusement, l'élection présidentielle ne se déroulera pas dans des conditions classiques et que les débats de fond qu'attendaient les Français légitimement, ils n'en auront pas le droit parce qu'on ne parle pas du pouvoir d'achat, parce qu'on ne parle pas des violences faites aux femmes, parce qu'on ne parle pas de la jeunesse et parce qu'on ne parle pas aussi, il faut bien le dire, des ambiguïtés des uns, des unes et des autres.
Merci messieurs, merci à Baptiste Ménard, maire adjoint d'une ville tout proche de Lille. On peut la citer d'ailleurs.
Mont-Saint-Barreul.
On salue. Beaucoup. Voilà, merci à Jimmy Dalidou, syndicaliste, mais aussi auteur d'articles, de plusieurs articles. Merci à vous, Jimmy Dalidou. Merci à Yanis à la réalisation. Demain, c'est une autre émission des Informés. Time Sport dans une poignée de minutes, 20h-21h avec Bilal Nedman. Quant à moi, je vous dis demain, 19h-20h, pour un nouveau programme des Informés. Portez-vous bien, on ne lâche rien.
Retrouvez les Informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurreFM.
Bonjour, c'est Philippe. Je vous donne rendez-vous tous les matins de 9h à 10h pour parler de votre santé, de bien-être et d'éducation. On prend soin de vous sur BeurreFM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurreFM.